votre grand journal de soir sur Europe 1, Sébastien Krebs.
Et on va parler de la transition écologique et comment on l'amène et comment on l'accompagne dans un instant. C'est notre débat ce soir. D'abord, Benjamin Muller qui est avec nous.
Bonsoir Sébastien.
Bonsoir,
bonsoir à tous.
Benjamin, justement, la transition écologique, il en était question dans les médias aujourd'hui.
Et oui, c'est Nicolas Hulot qui a accordé une interview dont on parle beaucoup depuis ce matin. C'était à Ouest France version papier et sur le site internet où Nicolas Hulot voit le verre à moitié plein. Au final, cette canicule, elle a eu un bon côté.
Si ça peut au moins simplement nous réveiller, c'est-à-dire de se rendre compte que ça n'est pas quelque chose d'abstrait.
Et effectivement, les 45 degrés de ces derniers jours-là, ça devient compliqué de trouver cela encore abstrait.
Quand Notre-Dame brûle, on est tous prêts à apporter des seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Quand la planète se consume et que ça n'est pas tout de suite palpable ou visible, et on a tendance à se dire ça ne se reproduira pas ou voilà, ça n'est pas si grave. Et quand on voit ce que c'est 44 degrés, on comprend bien que la vie peut très rapidement devenir insupportable, voire invivable.
Et donc, pour Nicolas Hulot, on va enfin se bouger. Mais alors comment ? Comment s'y prendre ? C'était le thème de l'émission d'Wendy Bouchard ce matin sur Europe 1.
Et on s'interroge ensemble ce matin, quel écolo êtes-vous finalement ?
Eh oui, parce que dire juste « je suis écolo », aujourd'hui, ça n'a plus de sens, c'est bien trop vaste.
Il y a les optimistes, il y a les déçus, des promesses jamais tenues. Entre les antinucléaires, les animalistes et locavores, quelle société est possible ?
Eh oui, il y en a beaucoup, il y a le choix. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas 100% propre est potentiellement montré du doigt. Un exemple, le Tour de France, ou plutôt la caravane du Tour de France, RMC ce matin.
34 députés et 6 ONG qui dénoncent la pollution plastique engendrée par la distribution de ces 18 millions de goodies, alors que le Tour de France va bientôt démarrer.
Et en voilà un bon débat, une bonne question. Faut-il interdire la caravane du Tour et les petits cadeaux en plastique qu'elle offre aux spectateurs, évidemment, en proposition qui fait débat.
Mais de dire que ça pollue directement les champs...
C'est nettoyé ensuite, je te dis.
Mais n'importe quoi. Quand un cycliste lance un bidon en plastique, je te jure que les gens se battent pour l'avoir, quoi. Hein.
Voilà, ce qui n'est pas totalement faux pour avoir déjà assisté à la scène. Mais ce qui est marrant dans ce genre de débat, c'est quand on décide de ne pas répondre au sujet... la pollution de la caravane, en proposant d'en parler d'un autre, encore plus effrayant. Exemple.
Ces mêmes députés, est-ce qu'ils s'émeuvent du tourisme de masse dans le Mont Blanc, avec tous ces randonneurs qui montent à la queue leu-leu le Mont Blanc et qui laissent derrière toute leur saleté leur...
Voilà, sans doute peut-on s'alarmer du plastique de la caravane et de celui du Mont Blanc. D'ailleurs, à propos du Mont Blanc, la boucle est bouclée, puisque Nicolas Hulot en a encore parlé hier, et c'était pas très réjouissant.
Et dans le même temps, j'ai appris que au sommet du Mont Blanc, on est dans des températures positives, c'est-à-dire que le Mont Blanc peut également... peut-être diminuer de hauteur.
Et effectivement, la semaine dernière, il faisait un peu plus de 7 degrés en haut du Mont-Blanc, ce qui a réjoui. Je ne sais pas si vous avez vu l'image des centaines d'amateurs de parapente qui ont pu monter en haut du Mont-Blanc grâce aux airs chauds. J'imagine une belle vue pour eux. Pour nous, une situation plutôt inquiétante.
Plutôt inquiétante en haut du Mont-Blanc. Merci beaucoup, c'était Benjamin Muller sur Europe 1, 19h25.
Votre grand journal du soir, Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et on ouvre notre débat ce soir sur Europe 1. Est-ce au plus modeste de payer pour la transition écologique ? J'accueille ce soir mes invités. D'abord, Célia Blouel, qui est maire adjointe de Paris. Vous êtes élue écologiste, chargée de l'environnement. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Didier Berger, vous êtes maire de Clamart. Vous faisiez partie des Républicains. Aujourd'hui, vous avez suivi Valérie Pécresse.
Absolument.
Donc, on va dire que vous êtes maire d'hiver droite à présent. Et puis, Sandra Oybian, je le prononce bien, pardon. Vous êtes directrice du pôle évaluation au CREDOC. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Je posais la question, est-ce au plus modeste de payer la transition écologique ? On parle de ces nouvelles mesures de restriction de circulation qui sont entrées en vigueur ce matin à Paris. Il y a eu des amendes à l'entrée de Paris, Célia Blouel. On parle des vieux diesels qui ont interdiction de rouler dans Paris, à terme également en banlieue. Clairement, ça va forcément frapper les plus modestes. Vous reconnaissez ça ?
Non, je crois qu'il faut sortir de ce débat caricatural sur l'écologie, ce serait un truc de bobo et les plus modestes le payent. La réalité, c'est quand on regarde les études de manière assez fine, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le moins de moyens, ont globalement moins de voitures, font moins de kilomètres pendant l'année que ceux qui ont plus de moyens. Le rapport entre le premier décile et le dernier décile, c'est 0,6 voitures pour 1,4 voitures dans les foyers les plus forts. Donc en fait, non, la réalité aujourd'hui, c'est que ce sont les gens plus aisés qui sont dans les voitures, qu'on est particulièrement dans le monde urbain face à une pratique de l'autosolisme qui est un vrai problème par rapport à une responsabilité collective, par rapport à la pollution de l'air et à la planète. Et une autre réalité dont on parle jamais, c'est qu'en fait, c'est effectivement les plus faibles économiquement aujourd'hui qui sont dans la double peine par rapport aux problématiques environnementales. C'est aussi eux qui habitent le long des grands axes, qui du coup ont et la pollution de l'air et la pollution sonore. Donc je crois qu'il faut changer de perspective et sortir de cette caricature en fait. Aujourd'hui, les questions de transition écologique sont certes complexes, mais en fait viennent plutôt apporter des réponses à des gens qui subissent ces pollutions et doivent nous amener à repenser collectivement en fait notre vie dans les villes.
Mais ce sont eux les plus modestes qui ont les voitures les plus anciennes, donc ils vont devoir les changer. Là-dessus, on est d'accord.
Non, mais de fait, ils ne les utilisent pas forcément au quotidien. Ils sont déjà, d'ores et déjà, plus dans les transports en commun et ont moins de voitures que les personnes qui ont des moyens. Donc non, non, c'est un débat qui est aujourd'hui, à mon sens, trop caricatural. Il y a effectivement des personnes plus modestes, mais il y en a dans Paris, il y en a en dehors de Paris. Donc en fait, réduire cette question environnementale à une opposition favorisée, défavorisée, est à mon sens dépassée d'ores et déjà.
Alors Jean-Didier Berger va vous répondre. Alors vous êtes donc le maire de Clamart. Vous faites partie de la métropole du Grand Paris, mais vous avez décidé de ne pas appliquer, en tout cas pour l'instant, ces mesures de restriction de circulation. Pourquoi ?
Oui, absolument, parce que j'ai considéré que c'était une mesure d'abord inefficace. L'objectif de passer d'un parc de véhicules polluants à un parc de véhicules propres, évidemment, tout le monde le partage. Mais là, il ne s'agit pas de supprimer des véhicules, il s'agit simplement de les déplacer, de les exclure de la périphérie de Paris, mais ils peuvent continuer ces véhicules à rouler en province. Ça ne dérange personne, et même en grande couronne. Donc l'objectif qui doit être le nôtre, ça doit être de considérer qu'il faut faire cette transition écologique pour demain avoir uniquement des véhicules propres. Ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais c'est comment ? Donc moi, je propose de le faire sur une échelle beaucoup plus large que 79 communes, de le faire au moins à l'échelle régionale, si ce n'est nationale, mais surtout les nouveaux véhicules. Parce que de dire à des gens qui ont une voiture, qui ont déjà un crédit sur le logement, un crédit sur les études des enfants, un crédit sur la chaudière, parce qu'on nous dit qu'il faut aussi changer la chaudière, que du jour au lendemain, il faut changer de voiture alors qu'on n'a pas du tout prévu de le faire, évidemment, seuls les plus aisés d'entre nous peuvent le faire. Et nos concitoyens les plus modestes, ils aimeraient bien avoir demain une voiture électrique. Ça ne pose pas de problème à personne, je pense, du point de vue idéologique. Mais il faut les accompagner. Or, les aides qui sont prévues aujourd'hui sont tout à fait insuffisantes. On peut, avec les aides qui sont prévues, subventionner 1000 véhicules par an. Alors qu'on parle en centaines de milliers, voire en millions.
Alors on va y revenir justement sur ces mesures d'accompagnement dans un instant et vous aurez également l'occasion de prendre la parole, Sandra Weiban. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant et tous vos appels évidemment, vous réagissez hein, quand vous voulez au 39-21. A tout de suite.
Vos invités Sébastien Krebs jusqu'à 20h sur Europe 1, Célia Bloel, maire adjointe Europe Écologie Les Verts de Paris, chargée de l'environnement, du développement durable et du plan climat-énergie territorial. Jean-Didier Berger, maire de Clamart dans les Hauts-de-Seine, porte-parole de Libre, le mouvement créé par Valérie Pécresse. Et Sandra Wabian, directrice du pôle évaluation et société au Crédoc, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
Et on se pose la question ce soir, est-ce que les mesures qui encouragent et qui favorisent la transition écologique, est-ce que ces mesures font trop peser le coût de cette transition écologique sur les épaules des plus modestes. On en parle avec vous, Sandra Wabian. Merci beaucoup. Vous faites partie du Crédoc. Comment les Français vivent ces mesures de restriction de circulation ? Est-ce qu'ils le vivent comme une mesure trop autoritaire, une écologie qui serait trop punitive ? Ou est-ce qu'ils l'acceptent globalement ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, déjà, dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une grande sensibilité environnementale. On suit, nous, ces questions depuis 40 ans au Crédoc et on est aujourd'hui à un niveau qu'on n'avait jamais observé. Donc, on est quand même dans une période où il y a eu une prise de conscience. Donc, il n'y a pas de mauvaise volonté, on va dire, des ménages à ne pas changer. Après, il y a des questions de choix de vie. Et je réconcilierai peut-être nos deux interlocuteurs. C'est-à-dire que dans les ménages les plus pauvres, on a des ménages jeunes, beaucoup de ménages jeunes, et des ménages plus âgés. Et chez les jeunes, aujourd'hui, on est effectivement dans des modes de vie plus urbains. Ils vont utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture, très majoritairement du covoiturage, de vélopartage, etc. Chez des ménages plus âgés, qui ont fait des choix en fait, d'installation à une époque où on était dans le tout voiture, là, la mesure au moment dit est plus compliquée à être mise en œuvre. Donc effectivement, elle est vécue d'une manière punitive et surtout, il y a un peu une idée dans la population qui est une sorte de fatigue des petits pas, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup de choses aux individus et pas assez aux entreprises et pas assez aux administrations. Donc il y a un peu une attente de oui, on veut bien bouger, mais il faut que tout le monde s'y mette.
On a entendu exactement cet argument tout à l'heure dans la bouche de l'un de nos auditeurs qui est intervenu pour dire il faut aussi que les entreprises fassent des efforts. C'est liable à elle. Pour avancer, il faut aussi forcer les gens, il faut être très incitatif. Et il faut un peu forcer la main pour que les gens renouvellent leur voiture, en l'occurrence.
Je crois déjà effectivement qu'il faut faire une distinction entre le monde urbain et la province. Enfin, moi, je suis originaire de la campagne alsacienne et la problématique n'est pas la même. Dans le monde urbain, on fait face à des pics de pollution, on est largement à la source de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc le changement est différent et le changement ne s'opère pas pareil, y compris parce qu'on a ces modes de vie différents au monde urbain. Après, est-ce qu'il faut... Il faut emmener les gens, il faut embarquer les gens, il faut les convaincre en fait qu'on est en train d'écrire une histoire collective. C'est pour ça qu'à Paris, il y a à la fois cette zone à faible émission où il y a les voitures les plus polluantes qui sont effectivement interdites de circulation de 8h à 20h, mais qu'à côté de ça, il y a un paquet de mesures incitatives. On a mis beaucoup d'argent sur la table pour aider les gens à lâcher leur voiture et basculer sur des packs de mobilité, avoir accès, on leur prend en charge leur passe Navigo ou un passage à l'autopartage, etc. Il y a beaucoup d'argent aussi sur la table pour aider les artisans PME, y compris des départements autour de Paris, à changer leurs véhicules. Et évidemment, pour que ça fonctionne, il faut aussi que le paquet soit mis sur des transports en commun qui fonctionnent, et y compris dans lesquels on a envie de circuler en période de canicule. Ça, c'est plutôt votre partie avec Valérie Pécresse. Et donc, l'idée, c'est de se dire que ce qu'on a fait à l'échelle de Paris, on peut le faire demain à l'échelle de la métropole. Et si toutes les planètes politiques s'alignent, il y aura le pack incitatif pour que tout le monde fasse ce pas. Mais ce qu'on a besoin, c'est de ne pas être seul là-dedans. On a besoin que toutes les échelles politiques se mettent en route. Et évidemment, quand on voit ce qui s'est passé avec le scandale Volkswagen, il faut aussi que les grandes industrie fasse leur évolution.
Jean-Didier Berger, vraiment... il y en a suffisamment des mesures justement pour aider.
Je suis effaré par le nombre de lieux communs qu'on vient d'entendre. D'abord, si vous regardez, moi je suis patron d'intercommunalité. Quand on regarde le bilan carbone d'une intercommunalité de petite couronne comme la mienne et le bilan carbone d'une agglomération ou d'une partie de province comparable, le bilan carbone d'une partie de la province est beaucoup plus important, malheureusement, que le nôtre. Parce qu'il y a plus de déplacements, parce que les trajets domicile-travail sont plus importants, parce qu'il y a plus de tracteurs, parce qu'il y a tout un tas de choses, parce que les modes de chauffage sont différents, parce que l'isolation des logements n'est pas aussi forte que dans nos banlieues. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir des lieux communs. Deux, vous parlez de Paris, il faut sortir aussi un petit peu de Paris. Paris n'est pas la France. Donc à Paris,
ce que j'ai dit dans mon interview d'introduction.
Paris a la chance d'avoir la densité de transports en commun qui permet aux Parisiens d'avoir peu de véhicules, mais dès que vous allez en petite couronne ou en grande couronne, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilité, la région Île-de-France développe les transports en commun comme jamais, mais aujourd'hui, 70% des déplacements motorisés se font avec les véhicules. Et quand on connaît le niveau de saturation des transports en commun malgré leur développement, on se dit qu'il faut continuer à avoir une complémentarité. Le problème n'est pas la voiture en tant que telle, le problème est la voiture polluante, bruyante, et donc c'est ça qu'il faut accompagner. Mais il faut le faire vraiment, ça n'est pas en faisant uniquement de la communication par quelques subventions sur quelques milliers de véhicules, parce que c'est très simple, hein, le budget de la métropole, c'est jusqu'à 6 000 euros par véhicule, et il y a 6 millions d'euros sur la table. Donc ça fait 1 000 véhicules. Or, ne serait-ce que les critères 5, je ne parle même pas des 5 et des 4 qui viennent d'être interdits à Paris, ne serait-ce que les 5, selon la métropole, c'est 100 000, et quand vous prenez uniquement le périmètre concerné. Donc ça ne tient même pas compte des gens qui sont, par exemple, en grande couronne, et qui viennent travailler en petite couronne. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes pour qui il n'y a pas de la ligne de bus qui va bien, pour qui il n'y a évidemment ni métro, ni RER? Qu'est-ce qu'on leur dit? Donc moi, je ne peux pas accepter qu'on soit en train de réinstaller une forme de péage urbain qui ne dit pas son nom, une forme de discrimination par l'argent, en disant à nos concitoyens les plus modestes, vous pouvez bien faire un effort, vous voyez bien qu'il faut se prendre par la main. Non, et ça fait que 6 mois que cette mesure a été votée, on n'a pas du tout laissé la possibilité aux gens de se retourner, donc faisons-le plutôt à plus grande échelle et sur les nouveaux véhicules, sur les nouvelles locations, sur les nouvelles acquisitions, et à ce moment-là, les choses se passeront en douceur.
Salia Blois, ça suffirait d'aller sur les nouveaux véhicules uniquement ou ça n'aurait aucun effet?
Je crois qu'aujourd'hui, quand on est responsable politique, il faut aussi être responsable dans la double injonction, certes compliquée qu'on vit, mais qui en a d'une part quand même. Nos citoyens, et je parle vraiment du monde urbain parce qu'effectivement la problématique n'est pas la même quand on va dans le monde plus rural, on a une pollution atmosphérique aujourd'hui. On ne parle que des automobilistes dans ces moments-là, mais est-ce qu'on parle des gamins qui engorgent les urgences face aux pics de pollution, aux familles qui effectivement subissent ces pics de pollution, donc la nécessité d'agir. Et agir aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça passe par des politiques publiques de refonte de notre urbanisme. Ça parle par ses incitations au soutien d'autres mobilités. Et non, c'est pas peanuts. À Paris, on a réussi à mettre plus de 40 millions d'euros sur cette mandature sur la table pour aider, y compris en dehors de nos frontières, les PME artisans de la petite couronne qui rentrent dans Paris. Demain, la métropole du Grand Paris n'est pas un acteur anodin. Je pense qu'il faut la pousser à aller jusqu'au bout et il faut aussi qu'on ait une aide nationale pour le faire. Il faut arriver à marcher sur ses deux jambes là-dessus et se dire que face aux questions de pollution de l'air, face aux questions de dérèglement climatique dont on a eu de cesse de parler depuis cette semaine, effectivement, la politique des petits pas et de « on va attendre que la technologie se réforme par elle-même », et on le voit bien avec le scandale Volkswagen que c'est pas le cas. Si aujourd'hui le pouvoir politique vient pas serrer la vis, mettre de la norme, mettre des obligations, l'industriel va pas s'y mettre tout seul. Donc en fait, il faut agir sur tous les fronts, avec des décisions des fois qui sont pas simples, mais en même temps avec un sens de la responsabilité qui doit nous animer. Aujourd'hui, une fois encore, ce sont les ménages aussi les plus précaires qui subissent de plein fouet ces pollutions de l'air. Donc à un moment, il faut trancher. Et c'est difficile de se cacher. Par ailleurs, la métropole du Grand Paris fait comme Paris l'a fait au départ, un exercice de pédagogie. Vous avez lancé la ZFE avec un temps d'adaptation aussi, avec pas de verbalisation dans un premier temps. Voilà, on donne le temps aussi de s'adapter à ces questions-là.
Et le débat continue dans un instant avec vous qui réagissez également, hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux et le 3921 si vous voulez venir participer à ce débat. 19h40.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, Sébastien Krebs, vos invités, Jean-Didier Berger, maire de Clamart dans les Hauts-de-Seine, porte-parole de Libre, le mouvement créé par Valérie Pécresse, Célia Bloel, maire adjointe Europe Écologie Les Verts de Paris, chargée de l'environnement, du développement durable et du plan climat-énergie territorial, et Sandra Wabian, directrice du pôle évaluation et société au CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
Avec les vieux diesels progressivement bannis du Grand Paris et les contrôles techniques qui sont durcis également aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que on ne fait pas un peu trop peser au plus modeste le prix de cette transition écologique? Célia Bloel le disait tout à l'heure, il faut un peu forcer la main et emmener les Français dans cette histoire. Sandra Wabian, vous qui observez les Français au Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, comment on fait justement pour emmener les Français dans cette histoire?
Alors, il y a différents types de leviers qui sont très connus et après avec lesquels on peut jouer. Il y a le levier financier. On fait des aides financières pour aller orienter les gens vers des comportements qu'on juge plus vertueux. Il y a le levier législatif. On interdit, on autorise. Il y a aussi ce qu'on appelle les nudges, c'est-à-dire on va essayer de faire des petits coups de pouce, des petits éléments qui vont pousser les gens. Par exemple, on organise des formes de concours entre les gens, celui qui sera le plus vertueux, par exemple au niveau des comportements dans la maison. Et puis après, il y a peut-être aussi quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui, qui est moins concret, mais qui est peut-être un imaginaire plus positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a beaucoup un imaginaire punitif, c'est-à-dire qu'on va avoir moins. Si on s'occupe de l'environnement, on va avoir moins de consommation, on va moins pouvoir se déplacer, on aura moins de liberté, en fait.
Et en l'occurrence, là, des amendes.
Et des amendes. Donc, effectivement, ça ne fait pas rêver, ça n'emmène pas grand monde. Et donc, il y a tout un travail aussi à faire sur quels sont les bénéfices, finalement, d'une société plus sobre. On peut prendre un exemple dans la consommation. Aujourd'hui, on dit beaucoup aux gens qu'il faut consommer. Si on ne consomme pas, on n'a pas d'économie, on n'a pas de société qui fonctionne. On pourrait renverser l'imaginaire et dire que la consommation aujourd'hui, elle est un peu frénétique. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'autant d'objets dans notre maison? Est-ce que ça rend vraiment heureux? Voilà, donc on voit bien qu'il y a aussi toute une question d'imaginaire d'utopie, en fait, à créer, qui est encore un petit peu manquant. C'est-à-dire que quand on parle de la planète, on l'a bien entendu dans les mots de Nicolas Hulot et dans son ton qui était quand même assez catastrophiste. En gros, on va tous mourir et il va falloir faire quelque chose, sinon on va tous conduire notre perte. Donc, et par rapport à ces discours-là, il y a une certaine partie de la population qui se dit si de toute façon tout est perdu, autant ne pas changer ses comportements, puisque de toutes les manières, la marche est trop haute, en fait. Donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur finalement une vision peut-être un peu plus positive des changements en matière d'environnement.
Si on veut le faire, il faut à la fois être positif et puis aussi que les pouvoirs publics montrent l'exemple. Moi, je sais qu'à l'échelle de notre intercommunalité, on développe le projet d'être le premier territoire hydrogène de France, et c'est en investissant aussi sur le développement durable et sur la recherche et développement qu'on va générer aussi les nouvelles habitudes. Et si on commence, par exemple, nous, on a pour projet de mettre nos lignes de transport public, nos bennes à ordures, les véhicules intercommunaux et municipaux à l'hydrogène, pour ensuite démocratiser au maximum et faire en sorte, finalement, qu'il y ait une rentabilité de ces investissements à l'échelle intercommunale et pour changer les comportements. Mais si on veut embarquer les gens, il faut qu'il y ait le sentiment de justice. Parce qu'en France, quand on a le sentiment d'injustice, on ne fait pas avancer la machine. On a des refus d'obstacles, on a du blocage. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'avait vu aussi avec les bonnets rouges. Il ne faut pas oublier cet épisode aussi. Et finalement, quand on voit que la seule façon d'appliquer ce dispositif qui est en train d'être mis en place, ça va être de mettre des portiques tout autour de la 86 et autour du périphérique, on se dit qu'on risque de revivre les deux phénomènes à la fois. Donc moi, je pense qu'il faut être responsable, aller sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux, pas simplement de déplacer la pollution, mais de la régler vraiment, et ça ne peut se faire que par l'incitation.
Salia Bloel, on est trop négatif, on est trop punitif.
Bah, c'est certain que l'écologie amène toujours sa petite dose d'angoisse quand on commence à en parler. Et pourtant, moi, je trouve que c'est... voilà, on est à un moment de société extrêmement intéressant. Parce que sinon, si on pousse vraiment l'exercice jusqu'au bout, on peut se dire que réaliser ce projet de transformation de société, c'est aussi se créer un monde où, oui, on va vivre de manière plus sobre. Il va falloir un petit peu se remettre en question dans son confort. Mais en même temps, on va mieux respirer. A priori, on va rendre notre eau un peu plus potable et moins pesticidée. On va mieux manger. On va partager différemment.
Mais ça, je crois que tout le monde est pour. Mais après, il faut aller travailler.
Tout le monde est pour, mais il faut le travailler. Du coup, nous, on fait un exercice à Paris depuis plusieurs années que je trouve assez intéressant. C'est qu'on a pris le bilan carbone global de la ville. Et on s'est dit, sur 100% des émissions de gaz à effet de serre, donc ces gaz qui vraiment bouleversent notre climat, finalement, il n'y a que 20% sur lesquels le politique en direct peut avoir une réponse en prenant une décision de conseil municipal. Sur le reste, il faut arriver à embarquer le citoyen, l'artisan... la grande entreprise, et donc on travaille à co-construire tout ça et à se dire comment chacun, et on est obligé en fait, il va falloir que chacun s'y mette si on veut être à la hauteur des questions du dérèglement climatique. Un peu dans l'état d'esprit de Rob Hopkins dans le monde anglo-saxon qui a réussi à vraiment faire la transformation du terrain vers...
Il faut que chacun s'y mette, mais on a quand même le sentiment que des gens, on y revient, mais que des familles plus modestes ont un effort supplémentaire à faire et un effort supérieur à faire.
Non, parce qu'il faut vraiment aussi, et c'est là où l'échelon national a aussi une responsabilité très forte, il faut aussi qu'on revoit totalement la FISCA et qu'aujourd'hui on ait aussi de la solidarité qui se met en place. On a aujourd'hui une contribution climat-énergie qui par exemple rapporte 8 milliards chaque année au gouvernement mais qui ne va absolument pas aux actions de transition écologique. Si demain elle permettait de soutenir la rénovation thermique comme tout le monde l'appelle dans le bâtiment, ça permettrait de mieux les isoler, ça permettrait de faire un geste pour la planète, ça permettrait de faire tomber les factures d'énergie. À Paris, dans les logements sociaux, c'est moins de 30% en moyenne sur des factures d'énergie qui explosent dans le temps, donc il y a un bénéf. Cet argent pourrait aller à l'alimentation durable et bio dans les cantines scolaires où tout le monde du coup a accès à un repas de qualité chaque jour. Voilà, donc en fait transformer, bien orienter cette fiscalité, faire redescendre un bonus aux foyers les plus faibles en fonction de leurs revenus, tout ça c'est possible. En fait dans les collectivités, dans nos villes, on l'expérimente quotidiennement, il n'y a pas qu'à Paris. Il y a plein de villes aujourd'hui qui ont des programmes qui font qu'on aide en fonction du revenu. Donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, transformer ça à l'échelle nationale et sortir du pays. Enfin, moi, je suis une indécrottable optimiste. Je pense qu'on se construit un monde beaucoup plus sympa si on suit ce projet de société.
Et le débat continue dans un instant. On marque une dernière petite pause et vous aurez évidemment l'occasion de répondre à Jean-Didier Berger. A tout de suite sur Europe 1. Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et avec vos invités Sébastien, Sandra Wabian, directrice du pôle évaluation et société au CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, Célia Bloel, maire adjointe Europe Écologie Les Verts de Paris, chargée de l'environnement, du développement durable et du plan climat-énergie territorial, et Jean-Didier Berger, maire de Clamart dans les Hauts-de-Seine, porte-parole de Libre, le mouvement créé par Valérie Pécresse.
Est-ce au plus modeste de payer pour la transition écologique? C'est la question qu'on se pose ce soir avec ces nouvelles mesures de restriction de circulation qui sont entrées en vigueur ce matin à Paris et en proche banlieue. Jean-Didier Berger, vous êtes donc le maire d'une ville de banlieue. Clamart, vous parliez tout à l'heure de sentiment d'injustice chez vos concitoyens. Est-ce qu'il y a un ressentiment de la banlieue vis-à-vis de Paris? Est-ce que sur ce sujet-là, c'est toujours une guerre entre Paris et la banlieue et qu'on n'a pas la même façon de voir les choses?
Mais d'abord, ça n'est pas que sur ce sujet-là, mais sur à peu près tous les sujets. Que ça soit la gestion des voitures, la gestion des migrants, la gestion des SDF. À chaque fois que Paris a un problème, y compris la question du logement, on nous reporte ce problème et on nous demande de le traiter à la place de Paris. Donc ça, ce sentiment-là, il est vraiment très difficile à accepter. Et puis, il y a un deuxième problème sur cette question spécifique, c'est que les gens ne sont pas informés de cette mesure. La plupart, d'ailleurs si on faisait un sondage, ça serait très visible, la plupart de nos concitoyens ignorent cette mesure et la découvrent pour la plupart aujourd'hui. Donc ils ont le sentiment d'être vraiment pris de court. Et même si on les avait prévenus et si tout le monde avait été au courant quand ça a été voté il y a 6 mois, c'est pas en 6 mois qu'on peut prendre ce type de décision quand on a déjà beaucoup d'emprunts sur le dos. Mais la corrélation entre la pauvreté et le type de véhicule, elle est claire. Plus on a de logements sociaux dans une ville, plus on a de véhicules concernés par cette interdiction qui est posée. On a 2 fois plus de véhicules concernés dans une ville qui a 70% de logements sociaux que dans une ville qui en a 15 ou 20%. Les chiffres, ils sont les mêmes dans toute la périphérie. Donc, il faut se rendre compte de quoi on parle. Pour une ville comme Clamart, c'est 1500 véhicules interdits tout de suite, 5000 dans 18 mois et 15000 18 mois encore après. Donc, on ne peut pas dire à nos concitoyens, vous allez mettre la moitié des véhicules immatriculés complètement hors service ou les exclure et reporter la pollution en grande couronne ou en province.
Salia Blauel.
Pardonnez-moi, mais vous avez vraiment là, pour le coup, un discours qui me semble à quelques siècles de retard, cette espèce d'opposition. Paris reste de la banlieue, enfin c'est quand même fini depuis un certain nombre de temps. Bah, vous parlez
vivre,
à quelqu'un qui est élu
dans la banlieue,
voilà,
peut-être.
Je suis moi adoptée par Paris depuis une dizaine d'années, je vous rassure, je sais ce qui se passe de l'autre côté du périphérique, voire même dans mon village de 900 habitants, je vois à peu près à quoi ressemble la vie en France, pas que à Paris. Vous parlez à une élue d'une ville qui va dépasser, qui va arriver au 30% de taux de logement social dans la ville. Donc ce que vous décrivez en fait, excusez-moi, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que Paris, aujourd'hui, a elle aussi sa multiplicité de populations et de mixité sociale, et que la première couronne a ses multiplicités aussi. Il y a des villes, effectivement, où il y a des poches avec des gens qui sont plus riches, et puis des endroits où il y a des gens plus faibles économiquement. Et moi, je voudrais quand même répondre à la question que vous posez dans cette émission. Non, ce n'est pas aux foyers les plus faibles de payer les coûts de la transition écologique, mais je crois que personne, en fait, n'a cette vocation-là, et que les programmes qui sont faits aujourd'hui ne vont pas dans ce sens-là.
Quand est-ce qu'ils sont suffisants?
Je le redis, quand on lutte contre la pollution de l'air, on le fait en priorité parce que les gens qui le subissent aussi sont ceux qui sont les plus foyers les plus faibles. Les logements sociaux ont souvent été construits le long des grands axes routiers. Quand on fait de la rénovation thermique, c'est à la fois parce qu'on pense à protéger la planète, mais c'est aussi pour faire baisser des consommations d'énergie. Il y a une facture d'énergie
mais
qui va augmenter
quand on va
dans
avoir
les années
des gens qui
viennent.
Vont se présenter, qui vont utiliser les aides qui leur sont prévues.
Concrètement, on a réussi à mettre des aides en place à Paris. Je vais terminer. Vous êtes élu de la métropole aujourd'hui, qui est une nouvelle institution, de la communauté d'agglomération à l'échelle métropolitaine. Aujourd'hui, il faut effectivement dégager les budgets pour aider à ces personnes-là, ou à basculer sur le transport en commun, ou alors à mettre en place des nouveaux packs, où effectivement, quand on vient de plus loin, il faut arriver à avoir le parking relais, le bon nœud de transport, la capacité de passer d'un mode à l'autre. C'est ça, la mobilité de demain dans le monde urbain. Et il faut globalement que nous bataillons pour qu'il y ait aussi des décisions à l'échelle nationale, pour qu'il y ait des vraies décisions de politique industrielle et que les industries changent leur braquet et fassent des vrais choix opérationnels. On a soutenu le diesel à une époque. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à prendre des grands pans de politique industrielle vers le véhicule propre? Ça créerait de l'emploi et ça permettrait d'aller sur cette transition. Il
Sandra,
faut du courage
bien
politique.
Un dernier mot, c'est quelque chose qui, au Crédoc, dans vos études, vous observez ce ressentiment des habitants de banlieue envers la capitale?
Alors, sur le sentiment d'injustice, monsieur a raison, c'est vrai que c'est quelque chose de très important en France. Les Français sont très sensibles aux inégalités. Et effectivement, il y a un peu une dimension du temps, on comprend bien, pour changer finalement d'un modèle de société à un autre. Après, je pense que la puissance publique peut jouer un rôle pas seulement au niveau financier, par exemple sur la thématique de la précarité énergétique dont vous parliez tout à l'heure. Il y a des programmes, par exemple, qui sont mis en place par l'ANA, qui est une agence qui s'occupe des propriétaires pauvres, pour faire court. Et en fait, ils conditionnent les aides financières à la rénovation énergétique avec la mise en place d'un bilan des besoins de la maison des gens. Puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un tiers, par exemple, des maisons où il y a eu de la rénovation énergétique, des travaux, mais en fait, dans les 3/4 des cas, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration au niveau énergétique. Parce que finalement, en tant qu'individu, en tant que ménage, ce n'est pas très facile de savoir comment s'y prendre. On se dit qu'on va changer les fenêtres et puis que ça va améliorer le rendement énergétique. Puis en fait, il faudrait aussi changer la chaudière en même temps. Donc, il conditionne ces aides à un bilan énergétique qui permet de savoir, pour vraiment améliorer la situation, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, ils orientent aussi vers des partenaires, des entreprises qui peuvent réaliser les travaux. Parce que là aussi, finalement, il n'y a pas que des questions financières, il y a aussi une question d'information, d'orientation.
C'est difficile de s'y retrouver.
Voilà. Ouais. Donc en fait, la puissance publique, elle peut avoir un rôle sur la question de la redistribution financière, c'est certain, mais également aussi sur l'accompagnement et l'information. Parce que ces ménages qui sont en difficulté, finalement, c'est pas très simple non plus d'arriver soi-même, tout seul, à devenir finalement une sorte d'ingénieur de sa maison pour arriver à améliorer l'efficacité énergétique.
Voilà, et on comprend qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que tout le monde s'y retrouve, habitants de banlieue et habitants de Paris, dans cette transition écologique qui est si difficile à mettre en œuvre parce qu'elle est coûteuse. Merci beaucoup à tous les trois d'être
Merci
venus ce soir. Célia Blowell, maire adjointe de Paris, chargée de l'environnement, du développement durable. Jean-Didier Berger, maire d'Hiver Droite de Clamart, et Sandra Wabian du CREDOC, le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie. Merci à tous les trois et je salue Karima Chardy qui prend la suite. Bonsoir Karima.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Quel est le programme ce soir pour musique?
Alors ce soir, je vous propose une découverte, une véritable pépite dans le studio dans quelques instants. Barry Moore sera à mes côtés et j'adore, et j'espère que vous aussi. Voilà, il sera avec nous en interview dans quelques instants. Également, on jouera avec les auditeurs au blind test. On parlera du brevet des collèges, bien sûr, qui a eu lieu
aujourd'hui.
C'était
aujourd'hui.
Eh oui, forcément, avec les thèmes abordés aujourd'hui. Les auditeurs sont également les programmateurs de musique. Donc voilà, de la détente, de la musique pendant deux heures à nos côtés en direct sur Europe 1.
Et ça commence maintenant en musique sur Europe 1. Très belle soirée à vous. Et merci d'avoir été avec nous depuis 17h. À demain, Ombline.
À demain, Sébastien Krebs, 17h également. À tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.
Europe 1.